France Inter, 8h. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. À la une ce matin, j'y suis, j'y reste. Donald Trump lance officiellement sa campagne pour être réélu à la Maison Blanche. Premier meeting en Floride hier soir et premier show de la course à la présidentielle. Nous y serons dans un instant avec Grégory Philips. Des élus de droite, main dans la main avec leurs adversaires de la France insoumise. Et l'effet aéroport de Paris, ils font estrade commune ce soir. L'assurance chômage. Chômage réformé pour le 1er novembre, en janvier prochain, des malus infligés à 7 secteurs qui abusent des contrats courts. L'alternative existe sur ce point, on va le voir. Et puis dans 20 minutes, Nicolas, vous en parlerez de cette réforme avec votre invité.
Oui, il s'agit du délégué général de la République En Marche, député de Paris, Stanislas Guérini, dans le grand entretien de la matinale. Vous pouvez intervenir dès maintenant, 01 45 24 7000, réseaux sociaux, applications. Application mobile France Inter.
À la une également le dernier jour du procès Balkany. Les Stambouliotes revotent dimanche pour élire leur maire. Le bio dans les cantines, ça va coûter très cher. Et des mamies sud-africaines en France pour jouer au foot. Si, si.
France Inter.
Il est en campagne permanente pour lui-même et contre tous. Ça fait 4 ans que ça dure. Depuis sa campagne pour l'élection présidentielle de 2016, Donald Trump vise désormais 2020. Et pour se faire réélire, il s'est lancé hier soir en Floride. Meeting à Orlando où nous rejoignons Grégory Philips. Bonjour.
Bonjour Florence.
Grégory, le contraire eût été étonnant. Vous avez assisté à un show Trump.
Oui, du grand spectacle. 20 000 personnes dans cette arène qui d'habitude accueille des matchs de basket. Alors, il n'y avait pas les 100 000 supporters annoncés un peu plus tôt dans la journée par Donald Trump, mais tout de même une marée de casquettes rouges, Make America Great Again. Trump accueilli sur scène par le vice-président Mike Pence, entouré de presque tous ses enfants et de son épouse Melania. Et Donald Trump, visiblement heureux d'être en campagne. Il adore ça, ces grands meetings. Pendant 1h20, il vante son bilan économique, le meilleur, dit-il, de l'histoire des États-Unis. Il dit qu'il sera encore plus dur envers l'immigration clandestine. Il promet enfin à ses militants chauffés à blanc de défendre leurs libertés individuelles, comprenez évidemment le deuxième amendement sur le droit de porter une arme et leurs croyances religieuses concernant l'avortement.
Alors ce que vous avez vu, Grégory, c'est un copier-coller de la dernière campagne en fait, hein.
Bah oui, parce que, vous savez, Donald Trump a évidemment tapé sur les démocrates. Il a cité une fois Joe Biden, une fois Bernie Sanders, qui sont tous les deux candidats à l'investiture. Mais quel démocrate a-t-il le plus attaqué à votre avis hier soir? Eh bien, comme en 2016... Hillary Clinton, qui pourtant n'est plus du tout dans la course, et même à l'écoute des slogans de ses supporters, eh bien, on se serait cru revenu 4 ans en arrière. Voilà, quasiment pas besoin de traduction. Construisez le mur, enfermez-la. Allusion à Hillary Clinton. Le président dit aussi à plusieurs reprises que il veut reconstruire ce mur. Bref, Trump 2019 fait du Trump 2016 et ça plaît à ses supporters qu'il prévient un seul vote pour les démocrates en 2020 et ce sera un vote pour un socialisme radical et la destruction du rêve américain. Cette fois, Florence, la campagne est bel et bien lancée. Elle va être très très longue. On est à 503 jours de la présidentielle.
Grégory Philips, merci, en direct d'Orlando en Floride, à 8 jours d'un grand débat des primaires démocrates dans cet état stratégique où plusieurs candidats devancent Donald Trump dans les sondages.
Il est 8h04, Florence, en France, c'est l'union sacrée pour ADP.
Un député LR, un socialiste, un communiste, un insoumis, tous ensemble ce soir pour lancer la campagne du référendum contre la privatisation des aéroports de Paris, meeting commun à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Si l'attelage est hétéroclite, Élodie Forêt, l'objectif sur ce coup-là est le même pour tous.
Des élus LR et insoumis partageant une même estrade. L'image peut surprendre, mais pour le député communiste de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu, qui accueille ce meeting chez lui, il est indispensable dans cette campagne de faire des événements communs.
Les républicains, les socialistes, les communistes, les insoumis, les syndicalistes vont faire chacun une campagne avec leurs propres arguments et leurs propres réseaux, mais c'est permet bien de montrer qu'il y a sur cette question un intérêt national qui dépasse les clivages politiques, qu'il soit à l'intérieur de la gauche ou qu'il soit même entre la gauche et la droite.
Le LR Gilles Carrez n'a lui aucun problème à s'afficher avec plusieurs partis de gauche. Localement, dit-il, on travaille souvent ensemble. Une seule condition malgré tout à sa venue, que l'on ne parle que d'ADP.
Il est hors de question de me lancer dans des diatribes anti-Macron ou de demander si, comme nous l'espérons, on réunit les 4 700 000 signatures, la démission de M. Macron. Ça n'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi il ne faut pas privatiser Aéroport de Paris.
Ne pas faire de ce meeting un référendum anti-Macron, un avis partagé par Stéphane Peu ou encore le socialiste Patrick Kanner. Mais côté insoumis, la tentation d'élargir le combat est palpable. Dans une vidéo, François Ruffin assume vouloir se battre, je cite, pas seulement pour les aéroports, mais pour le monde qu'on veut.
300 000 tracts et 70 000 affiches ont déjà été imprimées contre la privatisation des aéroports. Un instant, un renoncement à droite. Bruno Retailleau annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidence des Républicains. Il vient de le dire, de le faire savoir sur Twitter. Plus de taxes d'habitation en 2023. Comment les communes vont-elles s'y retrouver? Réponse des ministres Jacqueline Gourault et Gérald Darmanin dans Les Échos ce matin. Les villes et les villages vont récupérer la taxe foncière qui allait au département. Eux-mêmes récupéreront une partie de la TVA collectée par l'État. Personne n'y perdra, promettent les deux ministres. 24 000 communes vont même y gagner. Et tous les deux confirment le maintien de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et le maintien de la redevance audiovisuelle. Une réforme profondément injuste pour la CFDT. Inique, inefficace, ça c'est la CGT. Un jour funeste pour les cadres, dit la CFE-CGC. Pas un syndicat derrière le changement des règles de l'assurance chômage annoncé hier, qui durcira les conditions d'indemnisation à partir du mois de novembre. Chez les patrons, ce sont les bonus-malus sur les contrats courts qui font grincer, dans l'hôtellerie-restauration notamment. Pourtant, il existe des parades contre l'abus de CDD. MonCDI.fr, par exemple, qui propose d'embaucher des personnes en situation de précarité pour les placer ensuite dans des entreprises clientes pour des missions temporaire, Manuel Ruffez.
La société PSC et sa plateforme MonCDI.fr embauchent elles-mêmes, en CDI donc, des personnes éloignées de l'emploi. Avec un salaire, une mutuelle, une ancienneté reconnue, puis ces salariés sont mis à disposition d'entreprises pour des missions longues. Philippe Bazin, le fondateur de MonCDI.fr.
Si on mutualise l'emploi dans un bassin, on est capable d'offrir un CDI et de faire travailler nos salariés 2 ans dans une entreprise, 3 ans dans une autre. Et on arrive petit à petit, comme ça, eh ben, à avoir 65% de nos salariés qui sont embauchés à la fin par nos clients, tout simplement.
L'intérêt pour les entreprises clientes, c'est de garder la souplesse dont elles ont souvent besoin. Evine Darène est responsable RH pour l'équipementier auto Gitect.
On est lié à un marché aussi qui est difficile et qui nous demande aussi d'être inventif. On peut avoir des besoins qui soient de long terme, des besoins structurels ou des besoins qui soient liés au projet. Et c'est cette possibilité-là que ça nous offre.
Marc Champlain a 56 ans. Ces dernières années, son quotidien, c'était l'intérim. Depuis 4 mois, PSC l'a embauché en CDI et ça change tout.
Ah oui, j'ai galéré, oui. Maintenant, j'ai un CDI, quoi. J'ai plus d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce qu'on ne sait jamais si on a du travail du jour au lendemain. Là, je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours du travail.
Et Marc aura même ses premiers congés payés au mois d'août.
Michel Platini, libéré cette nuit après plusieurs heures de garde à vue. Pas de mise en examen pour l'ancien patron de l'UEFA, interrogé sur des soupçons de corruption dans l'attribution de la prochaine Coupe du Monde de foot au Qatar. L'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, et son ancienne conseillère au sport sont aussi ressortis tard dans la nuit des locaux de la police anticorruption.
Et la fin, Florence, aujourd'hui, du procès Balkany.
C'est Éric Dupond-Moretti qui plaidera la cause du maire de Levallois, soupçonné de corruption, au terme de plusieurs semaines d'audience qui n'ont pas permis d'y voir plus clair sur la fameuse villa de Marrakech, dont Patrick Balkany nie toujours être le propriétaire. Il l'aurait acheté pour le compte d'un riche saoudien en affaire avec sa ville. Mais hier, Sarah Guibaudot, la défense du milliardaire, a réussi à semer le doute.
Le richissime Mohamed Al-Jaber s'est montré à l'audience presque aussi haut en couleur que Patrick Balkany. En revanche, prétendre qu'il aurait fait acheter le riad marocain par le maire de Levallois est invraisemblable, a plaidé son avocat Hervé Temim.
Ça me paraît une aberration de soutenir que M. Al-Jaber est le propriétaire de cette maison. S'il l'était, quel serait son intérêt à ne pas le dire ? C'est une blague, quoi. Ça mérite même pas d'être démenti autrement qu'avec le sourire. Ça n'a aucun sens.
On ne comprend même pas pourquoi Patrick Balkany prétend avoir acheté la villa pour l'homme d'affaires saoudien, car c'est soutenir l'accusation de corruption. À l'époque, Al Jaber négocie avec la ville de Levallois pour construire deux gratte-ciel en bord de Seine. L'homme d'affaires a-t-il bénéficié de délais de paiement en échange d'un pot de vin ? C'est la partie de l'accusation qui est apparue la plus fragile.
Nous demandons aussi Sarlax parce qu'il est évident qu'il n'a obtenu aucun avantage indu de la part de M. Balkany. Et d'ailleurs, c'est une affaire qui lui a coûté cher et qui ne s'est pas faite. Les tours n'ont pas été construites et lui n'a pas participé à ce projet.
Le procureur estime, lui, qu'il y a bien eu un pacte de corruption. Le tribunal appréciera. Quoi qu'il en soit, Patrick Balkany a, lui, bien d'autres points sur lesquels son avocat devra plaider cet après-midi.
Un prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand relevé de tous ses ministères annonce de l'archevêché hier soir. L'homme est soupçonné d'agression sexuelle sur mineurs il y a une cinquantaine d'années. Un contrôleur de la SNCF a été agressé au couteau dans un TGV d'Aix-Paris hier soir. L'agresseur a été interpellé. On ne connaît pas ses motivations. Le contrôleur est blessé au bras. La SNCF propose un soutien psychologique aux passagers qui le souhaitent.
8h11 en Turquie, on rejoue la bataille d'Istanbul.
Les 10,5 millions d'électeurs de la ville sont appelés à revoter dimanche pour élire leur maire. Le candidat de l'opposition l'avait emporté le 31 mars dernier, mais le président Erdogan a réussi à faire annuler l'élection pour cause d'irrégularité. Ikrem İmamoğlu donne donc tout pour l'emporter une seconde fois et infliger un camouflet historique au président. Les sondages le donnent légèrement devant le candidat du pouvoir. L'histoire reste donc à écrire. Reportage en meeting, signé Anne Andlauer pour France Inter.
Il entre comme une rockstar, revêtu d'un costume chemise, dans une salle bondée où les climatiseurs viennent de tomber en panne. Ikrem président, crie la foule, alors qu'Ikrem İmamoğlu avance au rythme des selfies, puis déclame son slogan de campagne « Tout ira très bien ». Le visage entouré d'un foulard à carreaux, Nuriye Demirol dit n'avoir qu'une envie, faire perdre la capée, partie du président Recep Tayyip Erdogan, une seconde fois en deux mois. Pourtant, elle l'a longtemps soutenu.
Tayyip, c'était mon numéro un. C'est grâce aux gens comme nous qu'il est arrivé là où il est. Mais il nous a oubliés, nous les pauvres. J'en suis à compter le nombre de patates que j'achète. Et puis beaucoup de gens ont peur de parler, de le critiquer au téléphone. Il y a tant d'emprisonnement.
La plupart des instituts de sondage accordent une faible avance aux candidats d'opposition. Mourad Gezici, directeur de l'Institut Gezici de bonne réputation, confirme. Mais il prévient, la partie est loin d'être gagnée.
65% des Stambouliotes interrogés estiment qu'İmamoğlu va gagner. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à se forger une image de candidat ultra populaire grâce aux réseaux sociaux et grâce à la très forte mobilisation de ses partisans sur le terrain. Mais son avance est loin d'être aussi grande.
Dimanche, les partis d'opposition seront aux aguets, présents dans tous les bureaux de vote pendant toute la journée jusqu'à la fin du dépouillement. Depuis l'annulation du premier scrutin, ils ont perdu toute confiance dans les autorités électorales. Un angle Istanbul, France Inter.
L'eau de la Loire contaminée à Saumur, en aval de 5 centrales nucléaires, c'est ce qu'affirme l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. On y trouve des traces de tritium, de l'hydrogène radioactif à des doses anormalement élevées, aussi bien dans le fleuve que dans les eaux de consommation, selon cette association. Au-dessus des seuils fixés par le Code de la Santé publique, en tout cas le gendarme du nucléaire promet d'enquêter pour en trouver la cause.
8h13, combien pour le bio dans les cantines ?
La loi impose d'arriver à 20% de produits bio en 2022. Mais on n'y arrivera pas sans un investissement massif, a calculé la fondation Nicolas Hulot. Célia Quiret, on n'a rien sans rien, ça va donc coûter très cher.
1 milliard d'euros, voilà la somme que l'État devrait investir d'ici 3 ans pour aider les cantines des écoles, des collèges ou des hôpitaux à se convertir au bio. Les entreprises privées ne sont pas concernées par cette étude. Interdire le plastique, servir 20% de produits bio, tout cela nécessite de transformer les cantines. Il faudra dans certains cas que l'État prenne à sa charge 1 euro par repas, quasiment un sixième du prix. Sinon la loi ne sera pas appliquée. Caroline Faraldo est la responsable de cette étude pour la Fondation Nicolas Hulot.
C'est vraiment et changer les pratiques. Donc on va investir dans des achats matériels qui peuvent être coûteux. Si on veut travailler plus de produits bruts et locaux, il va falloir peut-être investir dans des légumeries. Ça peut coûter jusqu'à 20 000 euros. Il peut y avoir énormément de formations puisqu'on sait que mettre en place des menus végétariens, c'est mettre en place de nouvelles façons de travailler. Donc il va falloir former les diététiciens, les acteurs de la restauration collective, les cuisiniers. Et il faut aussi structurer les filières locales et durables. Donc il va falloir aussi dégager du temps au personnel pour pouvoir les investir dans ces changements.
Et pour certains secteurs, cette conversion sera difficile. L'exemple le plus marquant, c'est l'hôpital. Par manque de moyens, seuls 2% des plats servis dans les hôpitaux sont bio aujourd'hui, contre 16% déjà dans les écoles.
Trois nouvelles qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine de foot, les Italiennes, les Australiennes et les Brésiliennes. Le Brésil qui pourrait affronter la France en huitième. Elles n'ont pas encore de Coupe du Monde, pourtant elles ont traversé les continents pour venir jouer au foot en France. Des mamies sud-africaines contre des Françaises du même âge ce soir à Saint-Étienne. À l'origine de l'aventure, les fondateurs de l'association Oldissa, ils sont allés voir comment vieillissent les seniors dans une douzaine de pays et s'apercevant que des sud-africaines âgées, malgré leur arthrose, s'affrontent dans un vrai championnat de foot. Ils ont eu l'idée de les faire venir. Béatrice Duguay les a rencontrées.
Pas besoin de les pousser beaucoup pour qu'elles expriment leur joie d'être ici en France. L'équipe est une sélection de joueuses des différents États sud-africains. La plus âgée a 76 ans. Parmi les plus jeunes, Lia, la soixantaine, originaire du Cap, milieu de terrain offensif aux anges.
C'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. Je n'ai jamais pensé dans mes vieux rêves qu'à 63 ans, je jouerais en France. C'était, je ne crois pas, impossible. C'est une bénédiction.
C'est Mama Beka qui a lancé le championnat des grands-mères il y a une quinzaine d'années dans l'état du Limpopo. Atteinte d'un cancer, son médecin lui conseille de faire de l'exercice. Elle embarque pour ça de vieilles amies pleines de douleurs.
Il y avait un terrain de foot et les gamins ont lancé le ballon vers nous. Et une grand-mère a dit « Yeah, yeah, yeah !» Et elle s'est mise à courir et shooter dans le ballon. Et elle l'a raté. Sérieusement. Et la suivante a suivi. On rigolait, vous voyez, on rigolait.
Un vrai remède pour ces femmes qui prennent l'habitude de jouer, reste à leur faire enfiler des shorts, en milieu rural ça ne se fait pas, et puis à faire un rêve devant Julia Moury et Christophe Boxebelt de l'association Oldissa. Rêve réalisé, Mama Beka en formule un autre.
Je veux une Coupe du Monde des grands-mères.
On dit chiche ?
Voilà, ces footballeuses, ces grand-mères footballeuses sud-africaines, on les appelle les Vankegula, à l'image des Bafana Bafana.
Merci Florence Paracuelos.